de la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Sonia Nzian.
Bonsoir à toutes et à tous. Reprise des élections dans 10 localités, telle est la décision du Conseil d'État à la fin du contentieux des locales du 2 septembre dernier. Mais en attendant, des délégations spéciales seront installées dans ces communes et régions. Des détails dans cette édition avec un spécialiste du droit administratif. Économie mondiale, les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiennent actuellement au Maroc. Plusieurs délégations prennent part à ces rencontres, dont le représentant de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis hors de nos frontières au Mali, la junte annule l'autorisation de reprise de la desserte de Bamako par Air France. Hier mardi 10 octobre, le Conseil d'État a rejeté plusieurs recours en annulation des élections municipales dans des localités, ce qui met fin au contentieux des élections municipales et régionales couplées tenues le 2 septembre dernier en Côte d'Ivoire. Retour sur ces décisions avec Francis Cassis.
Le Conseil d'État a clos ses audiences sur le contentieux de certains résultats des élections municipales et régionales par une sixième séance rejetant toutes les requêtes en annulation portant sur les localités de Port-Boué, Atékoubé, Kasséré, Guiglo, Bloléké, Fomboulo, Abouasso et Ganoua. Du coup, par exemple, la victoire du maire sortant PDCI de Port-Boué, Dr Sylvestre Imou Aka, contesté par son adversaire, le candidat du RHDP Konaté Ibrahim, a été confirmée, ainsi que celle de Dano Poulin, maire sortant d'Atékoubé. Dans l'ensemble, l'institution judiciaire avait à statuer sur 71 requêtes pour les communes et 13 pour les régions dans le cadre du double scrutin électoral du 2 septembre 2023. Et elle a tranché. De ces audiences, il est à retenir que les élections sont à reprendre dans 10 localités, dont les communes comme Ferkessidougou, Kouibli, Goïtafla, Sarala, San Pedro, Itiasalé, ainsi que la région du Guémon dans le district autonome des montagnes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Notons que la première séance du Conseil d'État sur ces contentieux a eu lieu le 21 septembre à son siège d'Abidjan, de Plateau, et qu'en attendant l'élection du nouveau maire et du nouveau président du Conseil régional dans ces différentes localités, selon la loi, il sera procédé à l'installation de délégations spéciales composées de préfets et de responsables de certains services publics qui devront gérer ces entités décentralisées.
Merci Francis Cassis. Et puis toujours dans la même veine, après l'invalidation par le Conseil d'État des élections dans certaines communes et régions, il sera procédé jusqu'à nouvel ordre et selon la loi à l'installation des délégations spéciales dans ces localités. Sur cette procédure, l'éclairage de Dr Landry Amoussou. Il est enseignant en droit administratif à l'université Pélé-Forogan Koulibaly de Korogo.
Il y a une solution qui existe depuis très longtemps, qu'on a hérité de la colonisation. Même pendant une période normale, quand il y a une démission du maire et de son conseil, ou qu'il y a une carence de la mairie, l'administration prend ses responsabilités et met la mairie sous tutelle. Et en attendant que le contentieux soit vidé, tout naturellement, l'administration va désigner des agents qui vont aller effectivement évacuer les affaires courantes dans la mairie en attendant que les autorités légitimes reviennent effectivement occuper le poste.
On parle là de délégation spéciale.
Une délégation spéciale pendant ce contentieux. Sinon, c'est une procédure que tout le monde connaît. Il y a en période normale, il y a la substitution d'office, oui. Mais là, on va parler plutôt de délégation spéciale en attendant que les élections se passent et que les autorités qui ont été nommées, désignées pour évacuer les affaires courantes, retournent à leurs occupations. Généralement, c'est des délégations qui vont tourner autour d'une gestion administrative, généralement. Mais les grandes prises de décision, les grandes orientations de la politique générale de la mairie, on va attendre effectivement que le maire arrive. Mais en attendant, il y aura forcément des dépenses à évacuer, des représentations à faire, des mariages à célébrer. C'est surtout le volet administratif qui va être mis en avant, et non le volet politique qui est à la charge ici de l'élu.
Docteur Landry Amoussou, enseignant en droit administratif à l'université Pelé-Forogan Koulibaly de Korogo. Rendons-nous à présent dans le Tampi où le nouveau président du conseil régional dévoile ses projets de développement pour la région. Albert Mabritoake s'envisage de poursuivre les actions en cours, mais aussi de mettre en œuvre de nouveaux chantiers. Stéphane Adams nous en dit plus.
À quoi faut-il donc s'attendre pour les 5 prochaines années du président du conseil régional reconduit à la tête du conseil, Albert Mabritoakeus?
Au niveau du conseil régional, les priorités seront donc de poursuivre nos efforts pour une éducation pour tous. C'est une décision du président de la République et modestement à notre niveau, nous mettons en œuvre en construisant les collèges dans les chefs-lieux de sous-préfecture, mais aussi dans les gros villages. Nous allons poursuivre et terminer ce chantier. Nous donnons encore 2-3 ans pour que toutes les grosses agglomérations aient leur collège. L'autre priorité, c'est de regarder la question donc, de la santé maternelle, faire en sorte que les femmes enceintes ne poursuivent plus 20, 30, 40, 50 km pour trouver la maternité la plus proche. Donc nous allons poursuivre la construction des centres de santé, en particulier les maternités et notamment les moyens d'évacuation des malades. Nous ferons en sorte aussi d'amener l'État à faire un peu plus en matière d'accès à l'eau potable.
Les priorités vont aussi vers une innovation détail. Des précisions avec Albert Mabritoakeus.
On a l'intention de mettre un projet d'auxiliaire d'état civil pour pouvoir obtenir des extraits de naissance pour tous les enfants qui naissent, les déclarations également de décès. Donc il y a cet effort-là. Ça va être une innovation majeure que nous allons engager.
À noter que le respect de la problématique du genre dans son équipe est observé. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Et puis la quasi-totalité des conseillers municipaux issus des différents partis politiques à Divo a porté Ali Mamadou Touré à la tête du conseil municipal hier mardi 10 octobre. Ce dernier succède ainsi à Amédée Kouakou Kofi, désormais président du conseil régional du Lodibois. On en sait plus avec vous, Abel César Cassin.
Naturellement, il y a eu quelques absences, chose à minorer toutefois. La cinquantaine de conseillers présents a porté son choix sur Ali Touré Amadou comme maire de Divo au détriment du conseiller Nyapa Albert qui s'est porté aussi candidat pour ce poste. Ali Touré Amadou définit sa nouvelle fonction.
Une fonction républicaine, ce n'est pas un endroit d'être des partisans, mais c'est avec l'ensemble des conseillers, c'est avec l'ensemble des différents groupes de la société, de la population que nous allons travailler désormais.
Alassane Diakité Jumeau Suprême, arrivé deuxième lors des élections, donne le ton de ce civisme.
J'ai jugé bon avec mon équipe d'être là pour soutenir l'équipe en place parce que c'est ensemble que nous allons développer Divo. On n'est plus en campagne, on n'est plus en élection. Donc il est temps maintenant de mettre en action tout ce que nous avons dit durant la campagne. Et pour que cela soit possible, il faut qu'on se mette ensemble.
À propos justement des conseillers qui manifestent déjà le désir de quitter le conseil, suivons les consignes du préfet de région Kouakou Assouma qui présidait cette cérémonie.
C'est la CEI qui a constitué les listes. Donc, la personne qui veut partir mais se fait remplacer, c'est non. Donc, on s'entend bien. Il y en a qui ont commencé à envoyer un mail. Je ne réponds pas à un mail. On vient à la préfecture avec sa demande de démission, on dépose et on décharge.
6 adjoints, dont 2 femmes, également élues, accompagnent Ali Touré. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Économie mondiale, après 50 ans d'absence, l'Afrique accueille à nouveau les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Plusieurs délégations prennent part à ces rencontres qui se tiennent du 9 octobre au 15 octobre prochain au Maroc. Et au nombre des invités, le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, qui, à l'instar du plaidoyer fait par le ministre ivoirien de l'économie et des finances, insiste sur la révision de l'architecture financière internationale. Pour Dr Christophe Kwame, il faut mettre en avant le suivi évaluation dans l'utilisation des fonds alloués au pays par le FMI et par la Banque mondiale.
Premièrement, il faut dire que depuis 50 ans, le FMI n'a pas fait d'assemblée annuelle dans toute l'Afrique. Donc la première remarque, le FMI revient en Afrique 50 ans plus tard. La deuxième remarque, c'est que les 54 pays d'Afrique n'ont pas des économies reluisantes. Troisième remarque, c'est qu'il y a une discussion de plus en plus des organisations de la société civile dans leur généralité sur la reddition des comptes, sur la transparence, sur la redevabilité. Et quatrième point, c'est la bombe, l'attente de la dette qui est en train de revenir saper les politiques publiques que les gouvernants ont mis en place dans la majorité des pays.
Le ministre de l'Économie et des Finances, qui conduit une délégation, a plaidé pour la révision de l'architecture financière internationale. En quoi donc cette architecture financière internationale handicape un peu les pays en développement?
Tous les pays du monde ont le même système: programmation, planification, budgétisation et suivi-évaluation. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes venus pour dire que le suivi-évaluation doit être porté à la lumière dans la modification de l'architecture financière mondiale. Pour nous, quand l'État de Côte d'Ivoire va prendre 1000 milliards, que 5% de ces 1000 milliards soient affectés au suivi-évaluation alternatif et indépendant. Nous pensons qu'en prenant la société civile comme partenaire indépendant, en dehors du système administratif, cette architecture-là peut apporter de nouveaux fruits.
Docteur Christophe Kouamé, président de Civis Côte d'Ivoire, joint au Maroc par Jean-Claude Comé. Pendant ce temps, à Yamoussoukro, un accord cadre de partenariat a été signé le lundi 9 octobre entre la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et la SCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Objectif, la réalisation d'un répertoire des us et coutumes ivoiriens. Émile Yao nous en dit plus.
L'élaboration d'un tel répertoire des us et coutumes vise à faire l'inventaire de façon quantitative et qualitative de l'ensemble des us et coutumes de notre pays et qui fonde l'appartenance à la nation ivoirienne et à ses valeurs de tradition africaine. Sa Majesté Tanoué Amon-Paul Désiré, président de la CNRCT, Chambre nationale des rois et chefs traditionnels.
Grâce à ce répertoire, la Côte d'Ivoire aura un inventaire plus ou moins exhaustif de son riche patrimoine immatériel et matériel.
La dévolution du pouvoir traditionnel est la première thématique abordée dans le cadre de l'élaboration de ce répertoire couvrant l'ensemble des us et coutumes de Côte d'Ivoire. Yaba Berthe Carbo, directrice de cabinet de la CNRCT.
Il s'agit de rassembler tous les us, toutes les coutumes de tous les peuples de Côte d'Ivoire afin d'avoir un document central qui va nourrir les actions de la Chambre sur le terrain et qui va servir également aux générations futures.
De par son expertise, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a été sollicité en vue de l'implémentation de ce projet. Son vice-président, Gadegbeku Samuel.
Plusieurs rencontres de travail ont déjà été organisées à notre siège à Abidjan avec les deux comités techniques relevant de chaque partie. À cet effet, un document technique a été élaboré intitulé « Accord cadre » qui définit les modalités pratiques de la coopération.
Cet accord cadre de partenariat entre les deux institutions a été signé et ce, en présence d'un représentant du ministre d'État auprès du président de la République chargé des institutions. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Également dans le fil de l'actualité, la 21e journée mondiale contre la peine de mort a été célébrée hier mardi 10 octobre autour du thème « Torture et peine de mort ». Une occasion saisie par l'ONG ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition des tortures, d'appeler à nouveau l'État ivoirien à déposer auprès des Nations Unies l'instrument de ratification du traité de l'OP2 interdisant la peine de mort. Kwadio Kofi Paul, le président du conseil d'administration de l'ONG ACAT.
La Côte d'Ivoire est un pays traditionnellement abolitionniste. La peine de mort n'y a jamais été appliquée. Dans les différentes révisions constitutionnelles intervenues depuis 2000, elle a toujours réitéré sa volonté abolitionniste. Cette volonté abolitionniste est aujourd'hui affichée au niveau international à travers le vote à l'unanimité des deux chambres du Parlement ivoirien le 5 juin 2023 du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, qu'on appelle l'OP2. Cependant, pour marquer son engagement à l'abolition définitive et irréversible de la peine de mort à travers l'adhésion à l'OP2, la Côte d'Ivoire doit encore déposer l'instrument de ratification auprès du secrétariat des Nations Unies comme le préconise la Convention. Ainsi, à l'occasion de la commémoration de cette 21e journée mondiale contre la peine de mort, la FIACAT et l'ACAT Côte d'Ivoire est reconnaissante des efforts importants consentis par la Côte d'Ivoire dans l'abolition de la peine de mort, voudrait l'exhorter à déposer l'instrument de ratification de ce traité international interdisant la peine de mort auprès du secrétaire général des Nations Unies, afin de parachever le processus d'adhésion du dit traité. Prendre sa place d'État champion de l'abolition de la peine de mort dans la campagne visant l'adoption par l'Union africaine du projet de protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant sur l'abolition de la peine de mort en Afrique.
À l'instant, Kwadio Kofi Paul, le président du conseil d'administration de l'ONG ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition des tortures. Parlons d'autre chose à présent avec la hausse du prix du carburant à la pompe. À Dabakala, cette situation a occasionné la hausse du prix du transport et de certains produits sur le marché local. C'est ce que nous apprend Joseph Assalé, notre correspondant sur place.
La ville de Dabakala ne possède pas de taxi. Ce sont les motos à trois roues, appelées ici Saloni, qui desservent les différents quartiers de la localité. Mais seulement voilà. Depuis ce lundi 9 octobre, les conducteurs de ces engins ont augmenté le prix de la course. La hausse du prix du carburant à la pompe est la raison évoquée.
Quand on prend quelqu'un, c'est à 300 francs. C'est à cause de l'essence là, qui a augmenté. Avant là, c'était 200. Il y a fait un versement. Et si ta ressource ne rentre pas, la plupart des motos est capable de dire que non, tu ne travailles pas ou bien tout son âme.
Poissonnerie,
pour
venir à la
gare,
ils ont les 300.
Ah,
comment on dit que
quand
l'essence est montée
au don, tu crois? À cause de carburant, carburant augmenté. Mais on fait comment? Si tu n'es pas fait ça, c'est toi qui vas avoir ton recette de la journée.
D'autres produits de première nécessité ont vu également leur prix majoré, selon cette vendeuse de semoule de manioc, communément appelée Atieke.
C'est 2014, on prend à plo, c'était 12 000, maintenant c'est devenu 12 500. Cap là, les tulons, on prenait 1 500, maintenant c'est devenu 2 000. Comme nous, on vend, on s'en sort pas. On y a même été 500, 400, maintenant c'est 1200. Ah, ça nous arrange ça, mais on fait comment? On fait avec. Tout est devenu cher, Dabakala ici. Tout est cher, en tout cas, tout est cher. Nous, on demande pour que le président encore revoie ça. Hein.
Mais en attendant, l'on continue de constater une flambée de prix de certains produits sur le marché local. Joseph Assalé, Dabakala, Radio de la Paix.
De nos frontières, la junte au pouvoir à Bamako a décidé d'annuler l'autorisation donnée à Air France de reprendre la desserte du Mali. La compagnie avait annoncé hier mardi qu'elle avait allait recommencer à desservir le Mali à partir de vendredi. Finalement, elle a indiqué à l'AFP que la reprise était reportée jusqu'à nouvel ordre et ce, à la suite de demandes complémentaires des autorités maliennes. Et puis, le régime militaire au Niger a ordonné à Louise Aubin, la coordonnatrice de l'ONU dans ce pays, de quitter le territoire dans un délai de 3 jours. Le régime dénonce notamment les entraves des Nations Unies à sa reconnaissance internationale, rapporte l'AFP. C'est la fin de ce 18h, le rappel de l'essentiel. Reprise des élections dans 10 localités, telle est la décision hier mardi du Conseil d'État à la fin du contentieux des locales du 2 septembre dernier. Mais en attendant, des délégations spéciales seront installées dans ces communes et régions. Vous avez eu des détails dans cette édition avec un spécialiste du droit administratif. Et puis, hors de nos frontières au Mali, la junte annule l'autorisation de reprise de la desserte de Bamako par Air France. Merci pour votre fidélité. Retour de l'information sur Radio de la Paix, demain 7h avec Zeynab Diomandé.